Il est 7h sur France Culture. Alors autant vous le dire, on vous souhaite un très bon réveil et c'est le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quelle sera la priorité de la politique de l'Union européenne après les élections du 26 mai prochain? Qui sera bientôt à la tête de la Commission européenne? Hier soir, un débat a eu lieu à Bruxelles entre les chefs des principales forces politiques du Parlement. Décryptage avec Angélique Boin dans ce journal.
Un autre débat sur l'Europe, mais alors en France. Hier soir, un face-à-face entre Jordan Bardella du Rassemblement National et Nathalie Loiseau de La République En Marche.
Compte rendu dans un instant avec Rosalie Lafarge.
Des relations très tendues entre Angela Merkel et Emmanuel Macron.
C'est ce qu'a mise en avant la chancelière allemande dans une interview publiée hier. Précision à suivre depuis Berlin.
Aux États-Unis, les militants anti-avortement espèrent l'emporter devant la Cour suprême.
Après le vote d'une loi qui interdit presque totalement le recours à l'IVG en Alabama, précision avec Grégory Phillips. Et puis en France, la maison mère de la marque de sucre Saint-Louis, qui prévoit de fermer deux usines françaises, a dit non hier au projet de reprise en coopérative porté par les producteurs de betteraves. La question du jour, Guillaume.
Eh bien, Sophie, dans une dizaine de minutes, temps de parole pour les européennes. Que disent les règles du CSA? On posera la question à l'une des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Michel Léridon.
À 11 jours des élections européennes, 6 chefs de file des principales familles politiques présentes au Parlement ont débattu hier soir lors d'une émission retransmise dans les 28 pays et traduite dans toutes les langues de l'Union européenne. Un débat dans l'enceinte du Parlement sur la façon de réformer l'Union, sur le problème des migrations, les populismes, l'emploi ou encore le climat. Un thème qui s'est imposé dans de nombreux pays comme le plus important du moment et sur lequel les opinions sont parfois tranchées, Angélique Boin.
Protéger la planète a un coût, certains emplois pourraient disparaître, l'énergie coûtera plus cher. Pensez-vous qu'il faille faire ce type de sacrifice? C'est sur cette question posée aux candidats que les débats ont été particulièrement vifs hier soir avec cette première attaque de l'Allemande Ska Keller, tête de liste des Verts européens.
Ce qui est bien, c'est que nous savons quoi faire. Les instruments politiques, les mesures à adopter, nous connaissons tout cela. Tout cela est prêt, il faut juste agir.
Et les partis ici présents, accusent-elles, ne votent pas au Parlement nos propositions. Le Belge Nico Cué, candidat de la gauche radicale, embraye en évoquant alors la crise des Gilets jaunes, une crise dont l'écho a largement franchi les frontières.
On ne s'attaque pas aux gros pollueurs. Ces multinationales qui sont responsables de presque 70% de la pollution mondiale, on ne leur fait absolument rien. Par contre, je suis totalement opposé qu'on déplace le problème vers la taxation des citoyens les plus faibles, comme le fait Macron en France. C'est totalement inacceptable.
Pour l'Allemand Manfred Weber, chef de file de la droite européenne, il faut en effet une transition climatique, mais pas trop brutale en termes d'emploi.
Je n'accepte pas que les perdants soient les retraités, les pauvres de nos sociétés, les salariés de l'industrie, notamment dans l'automobile. Comment ils vont pouvoir gérer cette période de transition m'inquiète.
Manfred Weber, dont la famille politique, le PPE, est en tête des sondages, il pourrait bien décrocher la présidence de la Commission européenne.
Et à 8h15, dans son billet politique, Stéphane Robert reviendra sur la place et l'importance des candidats à la tête de la Commission européenne en toile de fond de ce scrutin européen. Un autre débat avait lieu hier soir en France, cette fois celui entre Nathalie Loiseau et Jordan Bardella. Un face-à-face entre la tête de liste La République En Marche Modem et le candidat du Rassemblement National sur le plateau de BFM TV. Pendant une heure, la confrontation a porté sur les thèmes de l'immigration, de l'économie et de l'écologie. Beaucoup de questions abordées plus ou moins en profondeur dans un brouhaha quasi permanent, Rosalie Lafarge.
Ils sont peut-être côte à côte dans les sondages, mais c'est bien tout ce qui les rapproche. Les deux têtes de liste pensent l'Europe de façon radicalement différente et cela donne rapidement lieu à un dialogue de sourds.
La promesse de l'Europe, c'est d'être une économie sociale de marché.
Ça fait des années qu'on entend ça, Madame Loiseau.
Vous avez dû vraiment passer très peu de temps au Parlement européen.
Soyez pas méprisant.
Non, c'est
madame,
pas méprisant.
Mais voyez, c'est ça qui énerve les Français. Répondez, arrêtez de faire des pirouettes à chaque fois.
Mais je réponds et ne m'agressez pas et ne criez pas.
Mais vous déformez complètement la réalité.
Écoutez,
vous êtes dans la caricature.
Écoutez, faites un monologue.
Malgré tout, les deux candidats finissent par réussir à poser leurs idées sur l'économie à l'échelle européenne.
Pour être une puissance face à la Chine, face aux États-Unis, face à l'Inde, ça n'est pas la France seule qui pourra négocier, c'est l'Union européenne.
La réalité, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, c'est tout le contraire. L'Union européenne, aujourd'hui, c'est l'impuissance collective.
Mais aussi sur la politique migratoire.
Nous devons renforcer notre capacité à lutter contre cette immigration économique illégale en renforçant les frontières extérieures de l'Union européenne le plus vite possible.
La réalité, c'est que ce 26 mai, ça sera aussi un référendum sur l'immigration. Moi, je considère aujourd'hui en matière migratoire qu'il faut rétablir des portes à la Maison France. Aujourd'hui, Frontex ne lutte pas contre l'immigration clandestine.
Mais si.
Aujourd'hui, Frontex est une hôtesse d'accueil pour migrants.
Mais c'est fou.
Des joutes verbales animées également sur les travailleurs détachés ou le traité de libre-échange avec le Canada. Et finalement, deux visions qui s'affrontent sans grande surprise. Nathalie Loiseau milite pour plus d'Europe, là où Jordan Bardella en veut moins. Et à en croire les enquêtes d'opinion, entre les deux, les Français n'ont pas encore tranché.
Rosalie Lafarge.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Les tensions franco-allemandes mises sur la place publique par la chancelière Angela Merkel.
Dans une interview donnée dans un quotidien allemand, la chancelière allemande égratigne le couple franco-allemand, mettant en lumière ce qu'elle qualifie de différence de mentalité entre elle et le président français et de différence dans leur compréhension des rôles. Une interview qu'il faut remettre dans le contexte des élections européennes. David Philippot nous appelle de Berlin.
Dans cette campagne, Emmanuel Macron est l'adversaire numéro 1 du parti de la chancelière. Le président veut faire exploser le paysage politique européen, comme il l'a fait en France à la présidentielle. Et cela, les conservateurs allemands, majoritaires au Parlement européen, ne veulent pas laisser faire. Dans cette interview, Angela Merkel met donc l'accent sur les différences. Elle ne partage pas le point de vue du président quand il dit « jamais l'Europe n'a été autant en danger ». Et refuse également de se laisser enfermer dans le rôle de celle qui freine pendant que Macron donne l'impulsion dans l'Union. Si la chancelière ne cache pas les divergences de vues, elle ne met pas non plus la relation franco-allemande en péril. Elle dit « nous sommes sur la même longueur d'onde », elle souligne les énormes progrès réalisés. L'interview aux Süddeutsche Zeitung se termine par ces mots « il est bon que nous regardions l'Europe différemment », une sorte d'écho en somme à la confrontation féconde du président français.
Emmanuel Macron qui a répondu hier pour relativiser les difficultés du couple franco-allemand.
Dans une relation, en particulier entre la France et l'Allemagne, quelles sont les options ? Il y a le scénario de la confrontation stérile. On n'est pas d'accord et on n'arrive pas à aller au-delà de nos désaccords. On a connu ça par le passé, ça peut conduire au pire. Soit à l'impuissance, soit à la guerre. Il y a un autre scénario qui est l'entente stérile. C'est-à-dire, on veut tellement pas dire ou laisser dire qu'on soit peut-être en désaccord, qu'on ne décide plus rien. Ça aussi, on a connu par le passé. On fait des conférences de presse inutiles et on laisse l'Europe s'endormir parce qu'on ne veut pas être en désaccord sur quoi que ce soit. Ce qui est attendu de la France en Europe, c'est de dire clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle porte, quelles sont ses ambitions et ensuite de construire un compromis avec l'Allemagne pour pouvoir avancer.
Cette tension entre la France et l'Allemagne et ses conséquences, nous y reviendrons davantage dans le journal de 8h sur France Culture.
7h07, la Cour suprême des États-Unis dans la ligne de mire des anti-avortements, n'est-ce pas Sophie ?
Oui, on l'évoquait hier matin aux États-Unis, l'État d'Alabama vient de voter l'une des lois les plus drastiques du pays pour restreindre fortement le droit à l'avortement. Le texte interdit les IVG dans cet État à une seule exception près, si la vie de la mère est en danger. Même les grossesses liées à des viols ou des incestes ne pourront pas donner lieu à une interruption volontaire de grossesse. Mais tout va se jouer maintenant devant les tribunaux et peut-être même devant la Cour suprême. Grégory Phillips.
La gouverneure républicaine de cet État d'Alabama a donc signé la loi votée quelques heures plus tôt par les sénateurs et expliqué qu'à ses yeux, toute vie était un cadeau sacré de Dieu. La mesure adoptée n'entrera pas en vigueur avant 6 mois et elle sera quasi immédiatement contestée devant les tribunaux. L'Organisation de défense des libertés, ACLU, et le planning familial ont l'intention de saisir la justice. Mais en vérité, ce que les ultra-conservateurs d'Alabama souhaitent, c'est que le texte aille plus haut, jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. La représentante républicaine à l'origine de cette loi l'a dit clairement. Elle espère que ce sera l'occasion pour les 9 sages de casser l'arrêt Roe versus Wade qui, en 1973, avait légalisé l'avortement au niveau fédéral. La Cour suprême est aujourd'hui dominée par les juges conservateurs, dont 2 ont été nommés par Donald Trump.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Au Brésil, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues hier à travers tout le pays, dans plus de 200 villes, contre un gel des dépenses dans l'éducation. Il s'agit des plus importantes manifestations depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite qui a qualifié ses protestataires d'idiots et d'imbéciles, selon ses mots. La maison mère de la marque de sucre Saint-Louis a répondu non hier à la proposition des producteurs de betteraves français. Ils souhaitaient reprendre les deux sites français menacés de fermeture sous forme de coopérative. L'allemand Südzucker a rejeté leur offre dans un communiqué hier soir. 130 emplois sont directement menacés, sans compter les répercussions remettant en cause le modèle économique de milliers d'agriculteurs dans la Somme et le Calvados. Le groupe allemand est empêtré dans la crise mondiale du sucre, une crise qui frappe de plein fouet la France, Olivia Chandiou.
C'est en octobre 2017 que les difficultés commencent, avec, comme pour le lait 2 ans auparavant, la suppression des quotas européens. En y mettant fin, l'Union a permis à sa filière sucre d'exporter sans contrainte de volume. Mais le revers de la médaille, c'est que les producteurs français et européens se retrouvent alors exposés à la concurrence et surtout à un marché mondial très instable. Résultat, le cours du sucre s'est mis à fondre, comme l'explique Timothée Masson, en charge des marchés à la Confédération Générale des Planteurs de betteraves, la CGB.
Le secteur sucrier européen, il subit du cours mondial. Et qu'est-ce qu'on subit? On subit des cours qui sont au plus bas, qui n'ont jamais été aussi bas. Le marché mondial, juste avant la fin des quotas, était autour de 500 euros la tonne et qu'aujourd'hui, on est en dessous de 300 euros la tonne pour le marché mondial. C'est avant tout l'effet des politiques volontaristes indiennes, par exemple. Le bouleversement structurel de la fin des quotas européens, c'est 3 millions de tonnes de sucre en plus au niveau mondial, alors que les bonnes moussons et la politique volontariste indienne, c'est plus 13 millions la même année. Donc on n'est vraiment pas du tout dans le même ordre de grandeur, mais on subit vraiment ces cours mondiaux.
Le prix de la tonne de sucre en baisse entraîne dans sa chute celui de la betterave vendue par l'agriculteur au transformateur. Alors pour Timothée Masson, il faut rénover la production.
C'est donc tout à fait normal d'ajuster sa solde sans qu'il y ait des gros soubresauts, parce que celle industrielle ne pourrait pas arriver à encaisser. Par exemple, plus ou moins 40%, c'est pas possible, mais plus ou moins 10%, c'est tout à fait dans l'ordre du raisonnable, et ça peut suffire parfois à limiter les effets d'une crise.
Cette crise, justement, quand prendra-t-elle fin? Dès cet été, prédisent certains, notamment car le Brésil devrait affecter une part importante de sa production de sucre à la fabrication d'éthanol, créant ainsi un appel d'air sur le marché mondial.
Un lapin vendu aux enchères plus de 91 millions de dollars à New York. Hier,
c'est un gros lapin.
Oui, un gros lapin, un cher lapin en acier inoxydable de plus d'un mètre de hauteur, réalisé en 1986 par l'artiste Jeff Koons. Un montant record pour une œuvre vendue du vivant d'un artiste. Ce lapin, qui figure parmi une série de 3 pièces, est considéré par le monde de l'art comme l'une des œuvres les plus importantes du XXe siècle. La météo, un grand soleil sur la moitié est du pays, quelques brumes et passages de nuages dans le ciel sur la moitié ouest. Les températures sont comprises en moyenne ce matin entre 11 et 19 degrés. Avec 11 degrés à Belfort, 14 à Lyon, 15 à Paris, 16 à Nice et jusqu'à 19 degrés à Biarritz.
Merci beaucoup Sophie Delpont. 7h12 sur France Culture, temps de parole pour les européennes. Que disent les règles du CSA ?